9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end quand même. Et oui, la semaine a été chargée en mauvaises nouvelles. L'Europe est redevenue le centre de l'épidémie de Covid, et cela malgré ses taux de vaccination. Et puis la Russie a tiré un missile pour détruire un de ses vieux satellites évoluant à près de 500 km d'altitude, exactement comme dans Gravity, le film avec George Clooney et Sandra Bullock. Vous vous en souvenez, ça finissait mal pour George Clooney. Alors on va prendre nous aussi un peu d'altitude avec Antoine Flahau, d'abord le directeur de l'Institut de Santé Globale de Genève sur le Covid, et avec Pierre Barthélémy, le journaliste scientifique du quotidien Le Monde. On va carrément aller dans l'espace pour comprendre cette histoire de missiles et de satellites et de débris spatiaux qui risquent d'anéantir une station spatiale internationale de 450 tonnes. Pierre Barthélémy va tout nous expliquer. Et l'on terminera l'émission sur une note optimiste avec Caroline De Gruyter. Elle est journaliste, elle est hollandaise, elle est basée à Bruxelles et elle explique que depuis que l'Europe existe, toutes les grandes idées ont été françaises et les autres pays finissent presque toujours par s'y rallier. Cocorico.
Europe 1.
Antoine Flahau, bonjour. Vous êtes un habitué de cette émission, épidémiologiste, professeur de santé publique. Vous dirigez l'Institut de santé globale à l'Université de Genève et vous êtes l'auteur de Covid, le bal masqué aux éditions Dunod. Comment expliquez-vous que l'Europe soit redevenue le centre de l'épidémie en dépit de son taux de vaccination? Plus de la moitié des décès liés au Covid en ce moment dans le monde ont lieu en Europe.
Oui, bonjour. Depuis la fin du mois d'août, il y a une vague extrêmement forte de Covid dans l'Est de l'Europe et en Europe centrale. La Russie, l'Ukraine, mais aussi la Roumanie, la Bulgarie ont eu une vague mais dévastatrice, hein, avec une mortalité qui reste encore très très élevée dans ces pays, même si il semble que enfin les contaminations marquent le pas et que on soit maintenant sur une redescente dans ces pays-là. En revanche, la vague, disons, s'est propagée comme une onde de choc, si vous voulez, vers l'Europe de l'Ouest, et avec une force à peu près similaire. Elle attaque en ce moment l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, et elle frappe à la porte des Français, des Espagnols et des Italiens et des Suisses, bien entendu. Je dis avec la même force, mais évidemment, l'Europe de l'Ouest, mieux vaccinée, a construit des digues qui tiennent mieux. On ne sait pas très bien si elles tiendront complètement, et si elles tiendront jusqu'au bout. On semble voir ces digues un peu craquer en Autriche et en Allemagne en ce moment.
Ça nous rappelle qu'on a beau être vacciné, on peut attraper le virus et on peut le transmettre. Hein.
Oui, peut-être que c'est une déception, on peut le dire, de voir que le vaccin ne permet pas de bloquer la transmission. On le savait depuis les essais cliniques, mais visiblement, avec ce variant Delta, peut-être aussi un petit peu de perte d'immunité avec le temps, on voit que la transmission se fait assez facilement, malgré la vaccination et malgré des très hautes couvertures vaccinales. On avait vu ça cet été à Singapour, où il y a 80% de gens vaccinés, et que ces gens vaccinés, malheureusement, n'ont pas permis d'empêcher une très forte vague épidémique. Et on voit ça aux Pays-Bas en ce moment, parce que si on dit que les Autrichiens ou les Allemands sont un petit peu moins vaccinés que nous, on voit que les Pays-Bas, qui sont aussi bien vaccinés que les Français, font l'expérience de la plus forte vague, et même d'une vague qui fait deux fois la taille des vagues les plus hautes qu'ils avaient eues jusqu'à présent dans cette pandémie. En fait, je parle du nombre de contaminations, je ne parle pas d'une vague de décès ou
non, parce que le vaccin nous protège contre les formes graves. Mais alors justement, sachant qu'on peut attraper le virus en étant vacciné, on peut le transmettre, mais il nous protège contre les formes graves, pourquoi vacciner les enfants?
Alors d'abord, il nous protège imparfaitement contre les formes graves. Alors, vous allez trouver que je suis exigeant parce qu'il protège, dit-on, à 90%, entre 80 et 90%, ce qui est très très bon. C'est vraiment ce qu'on lui demandait à ce vaccin. Mais, et il n'a pas beaucoup perdu depuis les essais cliniques. Les chiffres des essais cliniques sont à peu près ceux que l'on observe encore aujourd'hui, malgré la virulence du variant Delta. Mais le problème, c'est que 80 ou 90%, ce n'est pas 100%. Et que quand vous avez une très grosse vague avec beaucoup, beaucoup de monde, finalement, ça fait quand même beaucoup de monde qui se retrouve avec des cas graves, des complications et à l'hôpital. Donc, la raison pour laquelle on veut vacciner les enfants, c'est essentiellement parce que, d'abord, les enfants Aujourd'hui, les essais cliniques l'ont montré, mais surtout l'expérience très large qui a eu lieu aux États-Unis, où ils ont vacciné les enfants larga manu, on a vu une très bonne tolérance du vaccin. On a vu un vaccin aussi qui est très efficace chez l'enfant, plus efficace peut-être encore que chez l'adulte, ce qui n'est pas étonnant parce qu'ils ont une très bonne immunité à cet âge. Et donc, pourquoi priver les enfants aujourd'hui d'un vaccin qui est sûr, qui est efficace, qui est bien toléré et qui peut éviter, dans un certain nombre de cas, des formes de Covid long qui sont très très impactantes sur leur scolarité et aussi sur leur qualité de vie. Pourquoi essayer non pas d'éviter toutes les formes compliquées qui pourraient y avoir chez l'enfant? Elles sont rares, mais si on peut en plus les éviter, il ne faut pas hésiter. Vous savez, on vaccine contre la varicelle. Il y a 70 décès par an en France dus à la varicelle. On essaye de les éviter, même 70. Donc je pense que pour le Covid, il y a malheureusement un peu plus encore de problèmes. Mais si on peut les éviter grâce à la vaccination, je pense qu'on en sera très content.
Antoine Flahault, on retrouve actuellement en France 50% des gens vaccinés parmi les patients hospitalisés. Comment on l'explique ça?
Alors, imaginez-vous que si 100% de la population était vaccinée, et qu'il y avait 10% d'inefficacité vaccinale, puisqu'on n'a pas un vaccin qui est parfaitement efficace, on n'aurait que des gens vaccinés dans les lits d'hôpitaux. Donc plus on vaccine la population et plus on trouve de proportions élevées de gens vaccinés parmi ceux qui font des complications. Mais il n'y a pas beaucoup de vaccins ou de produits de santé efficaces à 100%.
Troisième dose pour tous, rappel chaque année d'après vous?
Alors la troisième dose pour tous, elle a été tentée en Israël au cœur de leur vague, un petit peu comme le font aujourd'hui les Autrichiens ou les Allemands. Presque au sommet de la vague, un peu dépassé par les événements, ne sachant pas très bien où donner de la tête, il y a cette troisième dose qui s'est présentée à eux. Ils l'ont prise un petit peu dans l'urgence. Et puis, l'épidémie est redescendue avec d'autres mesures, hein, avec un pass sanitaire, avec aussi un port obligatoire du masque. Bref, tout est revenu dans l'ordre en Israël depuis 2 semaines. C'est quand même un peu tôt encore pour être certain que c'est la troisième dose qui va prémunir contre toute nouvelle vague en Israël. Mais c'est vrai que cette expérience est intéressante à suivre. Alors d'autres pays sont en train de le faire. Il ne faut pas les décourager. Il n'est pas certain cependant que ce soit la martingale, la solution à tous les problèmes que l'on va rencontrer avec ce coronavirus cet hiver. Donc je pense que la troisième dose, pourquoi pas, en tout cas, évidemment, je parle de la troisième dose en population générale, parce que la troisième dose chez les personnes âgées ne fait pas vraiment débat. Tout le monde est assez d'accord pour dire que les personnes âgées sont atteintes de ce qu'on appelle l'immunosénescence, c'est un peu la presbytie de l'immunité. C'est, avec l'âge, on perd un peu d'immunité, donc c'est bien de rebooster cette immunité par une troisième dose. Pareil pour les gens qui sont immunodéprimés. Mais pour toute la population générale, eh bien, elle se répand un petit peu partout en Europe. Et en tout cas, on sait qu'elle est très bien tolérée, on sait qu'elle peut être efficace, donc on a plutôt envie, on n'a pas tant d'outils que cela à notre disposition, donc on a plutôt envie de la préconiser.
On fait une pause, Antoine Flahault, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Noël approche et ce sera un Noël avec le Covid, encore et toujours le Covid. Ça va être le deuxième Noël avec le Covid. Nous sommes avec Antoine Flahault qui dirige l'Institut de Santé Globale à l'Université de Genève. Antoine Flahault, il y a 6,5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de l'Autriche qui avait décidé de les confiner, les non-vaccinés, à partir de l'âge de 12 ans, qu'ils n'aient plus le droit de sortir de chez eux, comme nous, en mars et en avril 2020, sauf pour aller travailler ou faire leurs courses et un peu de sport. Depuis, c'est carrément toute la population qui a été reconfinée en Autriche. Mais l'idée de confiner seulement les pas vaccinés, ça vous choque ou pas?
Je dirais que c'est une idée que les Français ont mise en œuvre depuis le 9 août dernier. C'est-à-dire que
le pass sanitaire.
Le pass sanitaire est une forme de confinement des personnes non vaccinées, certes, et non testées. Mais quand vous ne pouvez plus aller dans les bars, les restaurants, au cinéma, dans les fitness clubs, prendre le train, etc., vous êtes quelque part confiné. Donc on peut dire que, d'ailleurs, l'effet que le pass sanitaire a eu sur la vague estivale en France, mais aussi en Italie, mais aussi au Danemark, mais aussi en Suisse, on peut dire que c'est un effet qui ressemble à l'effet qu'aurait pu avoir un confinement pendant cette période-là. Donc, quelque part, en tout cas, les Français l'ont mis en œuvre avec succès pendant l'été, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant devant la force du virus l'hiver. L'hiver, vous savez, on est à l'intérieur beaucoup plus. L'hiver, on n'ouvre pas ses fenêtres, ou moins en tout cas. On a, nos interactions sociales sont dans ces lieux clos, fermés, pas très bien ventilés, et c'est là que ces aérosols de notre respiration viennent, quand ils sont contaminés, contaminer nos proches. Et c'est cela qui se passe l'hiver, et le pass sanitaire ici sera probablement insuffisant, ou le confinement des non-vaccinés sera probablement insuffisant, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, un grand nombre de gens vaccinés peuvent quand même continuer à transmettre le virus.
Vous insistez beaucoup depuis quelque temps sur l'aération des lieux clos, puisque c'est là que l'on se contamine le plus. Vous insistez sur les capteurs de CO2. Vous n'êtes à peu près pas entendu, on va dire, puisque on continue de sous-estimer la contamination par les aérosols. On croit encore qu'on se contamine en extérieur ou en se postillonnant dessus ou en touchant des objets.
C'est un peu une faillite à tous les étages. C'est-à-dire que c'est pas que les politiques qui ne mettent pas en œuvre une politique ambitieuse de lutte contre la transmission de ce coronavirus, mais même les chercheurs ont fait peu de travaux sur ce domaine. On est tous assez d'accord. Pourtant, il n'y a pas un énorme débat aujourd'hui pour dire que le coronavirus se transmet quasi exclusivement par voie aérosol. C'est-à-dire, en fait, ces aérosols, vous savez, c'est ce petit nuage que nous produisons quand nous sommes dans la rue. Vous savez, quand il fait froid, on a ce petit nuage qui sort de nos narines et qui se dilue immédiatement dans l'atmosphère. À l'extérieur, il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes à l'intérieur, vous ne voyez pas ce nuage. Mais si vous le voyez, ce serait exactement comme un nuage de fumée de cigarette.
D'où les capteurs de CO2 que vous recommandez.
Les capteurs de CO2, c'est juste une mesure de la qualité de la ventilation. Si vous avez une bonne ventilation, par exemple, mettez-vous dans la rue avec votre capteur de CO2, 400, il dira 400 ppm par million. Si vous rentrez dans la pièce et qu'il y a des gens, ils produisent du gaz carbonique en respirant, et donc l'air, s'il n'est pas ventilé comme dans la rue, il va monter. La concentration de CO2 va monter. Ce sera plus 400, ça va être 600, 800. Ça reste très bien. Jusqu'à 1000, c'est correct. Mais au-dessus de 1000, c'est là où on a un air peu ventilé et où le nuage de notre respiration, de ces micro-gouttelettes dont on parlait, va planer pendant plusieurs heures dans la pièce et va contaminer toutes les personnes qui sont là si jamais ce nuage est lui-même contaminé par du coronavirus. Donc le capteur de CO2, c'est juste parce que moi, je suis incapable, quand je rentre dans une pièce, dans un studio de télévision ou de radio, ou bien dans un amphithéâtre d'université, je ne suis pas capable de dire s'il est bien ventilé ou s'il ne l'est pas assez. Alors, le capteur vous dit 3200, eh ben, sortez immédiatement. Où il vous dit 800, et bien là, il n'y a pas de problème, on peut continuer à faire court.
Un dernier chiffre, on estime aujourd'hui à environ 5 millions les morts du Covid dans le monde, mais l'hebdomadaire anglais The Economist, qui dit rarement n'importe quoi, a fait un gros travail de réévaluation cette semaine. Il arrive à 17 millions de morts, plus du triple, dans plusieurs pays comme le Pérou, l'Équateur, la Bolivie, le Mexique. La surmortalité est de 50% par rapport à la normale. 17 millions, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, on a toujours beaucoup d'écart entre la mortalité qui est rapportée par les statistiques officielles, les certificats de décès, et la mortalité qui est estimée une fois que l'événement est passé. Vous savez, en France même, il n'y a pas besoin donc d'aller très loin, en France, il n'y a pas beaucoup plus de 300 certificats par an, avant la pandémie en tout cas, pour mortalité par grippe. Et pourtant, on peut, beaucoup d'experts ont essayé de chiffrer cette mortalité, elle est plutôt de l'ordre de 6000, c'est pas du tout la même échelle de grandeur. Donc il y a en fait un sous-rapportage des causes de décès, parce que quand une personne très âgée meurt, elle ne meurt pas forcément avec un test PCR la veille, parce que parfois les gens meurent d'une autre cause. Ils étaient atteints d'une autre maladie, d'une maladie très grave, et ils vont avoir le Covid, et on va pas nécessairement attribuer au Covid le fait d'avoir basculé dans le décès. Donc, si vous voulez, c'est difficile, de par les données rapportées, d'avoir une très bonne précision dans ces chiffres. Et en fait, des travaux après se font, et vous verrez qu'il va y avoir beaucoup de travaux dans l'avenir qui vont essayer de mesurer cette mortalité et que les chiffres vont encore évoluer et se préciser.
Merci Antoine Flao. Je renvoie à votre livre « Covid, le bal masqué » qui est paru Merci. Aux éditions Dunod. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Pierre Barthélémy. On va revenir sur ce tir de missile effectué par les Russes à l'encontre d'un de leurs vieux satellites qui a déclenché des protestations considérables cette semaine.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bonjour Pierre Barthélémy.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique au Monde. C'est vous qui animez le blog Passeur de Science. Lundi, la Russie a tiré un missile depuis la Terre qui a fait exploser un de ses vieux satellites militaires datant de 1982, du temps de l'URSS et naviguant à 25 000 km/h à 465 km d'altitude. Le but, évidemment, n'était pas de se débarrasser d'un vieux satellite hors d'usage, mais de montrer au monde entier ses capacités militaires. C'est une démonstration de force, non ?
Oui, exactement. On n'a pas besoin d'aller tirer sur un satellite pour s'en débarrasser. On attend que le temps fasse son œuvre et qu'il descende tout seul, si jamais il a une altitude qui lui permet de redescendre.
D'autres avaient fait la même chose. La Chine en 2007, les États-Unis en 2008, l'Inde en 2019. Il y avait déjà eu des protestations, les mêmes ?
Alors, je me souviens très bien de l'expérience indienne, puisque c'était il y a seulement 2 ans. Effectivement, il y avait eu aussi un certain nombre de protestations internationales. Au moment du tir de la Chine, il y avait eu aussi un tollé, étant donné que la Chine avait tiré sur un satellite qui était beaucoup plus haut, à plus de 850 km. Et il faut savoir qu'à 850 km d'altitude, les débris qu'on fabrique sont là pour des siècles.
Alors qu'à 300 km, ce qui était le cas de l'Inde...
Voilà, ce qui était le cas des États-Unis, par exemple, à 300 km, ça redescend très très vite. En fait, plus on est haut, plus c'est long à redescendre, mais ce n'est pas une droite, c'est
donc les Russes, ils sont entre les deux.
Les Russes, ils sont entre les deux, effectivement, et donc on peut estimer que certains des deux débris qu'ils ont fabriqués vont redescendre en quelques années, et que d'ici 15 ans, la totalité des débris qui ont été générés lors de ce tir auront disparu.
C'est interdit par les conventions internationales, hein, je crois. Il est interdit de créer volontairement des débris dans l'espace.
Voilà, alors ce sont des règles de bonne conduite.
Il n'y a pas de police pour les imposer.
Non, il n'y a pas de police pour les imposer. Et puis, il n'y a pas non plus de prison pour mettre en prison ceux qui les auront outrepassés.
Les 7 astronautes séjournant actuellement dans la Station spatiale internationale ont été immédiatement placés en procédure d'urgence. Pourquoi ?
Alors, la procédure d'urgence, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'une part, ils ferment tous les sas entre les différents bidons qui composent la Station spatiale internationale. Parce que si jamais...
Les gros bidons,
oui, oui, ce sont des très gros
tonnes.
Bidons. Voilà, de plusieurs tonnes et de plusieurs mètres cubes, évidemment, c'est à l'intérieur de ça qu'ils vivent. Parce que si jamais l'un d'entre eux était perforé par un débris, il ne fallait pas que toute la station se dépressurise. Donc, on fermait les portes pour protéger l'essentiel de la station. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils sont allés se mettre à l'abri dans leur vaisseau. Il y avait 2 vaisseaux qui étaient amarrés à la Station spatiale internationale, qui y sont toujours d'ailleurs. Le vaisseau Soyouz russe, qui peut emporter 3 personnes, et le vaisseau Crew Dragon américain de SpaceX, qui peut emporter 4 personnes. Donc, ils se sont répartis entre les 2 vaisseaux.
Il faut savoir qu'effectivement, il y a 2 Russes là-haut dans l'ISS et 4 Américains.
Alors non, il y a 2 Russes, 3 Américains et 1 Allemand, qui est, qui est l'astronaute de l'Agence spatiale européenne qui a succédé à Thomas Pesquet.
À Thomas Pesquet, oui. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, les Russes et les Américains, pendant cet incident.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, dans le Soyouz russe, il y a 2 Russes qui sont allés se réfugier, ainsi qu'un Américain. Et effectivement, on aurait bien aimé être une petite souris pour savoir ce qu'ils se sont dit pendant les 2 heures que cette alerte a duré.
Et dans la Station spatiale chinoise, parce que ça, personne n'en parle, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ? Y a-t-il eu procédure d'urgence ? Elle est à peu près à la même altitude que la Station spatiale internationale.
Exactement. Alors, elle est beaucoup plus petite, parce que pour l'instant, l'instant, c'est juste le début de la construction de cette station. Il y a juste un seul bidon, en fait, un bidon d'habitation. Évidemment, il y a un vaisseau qui est amarré. On n'a pas eu trop de nouvelles des Chinois, mais on imagine qu'effectivement, ils ont été informés d'une façon ou d'une autre et qu'ils ont peut-être aussi procédé à cette préparation d'évacuation, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Alors, c'est fou comme ce qui vient de se passer, là, nous rappelle Gravity, hein, célèbre film avec Sandra Bullock et George Clooney en 2013, si je me souviens bien. C'est parce que les Russes avaient tiré un missile sur un de leurs satellites qu'une navette spatiale, dans le film, envoyée pour une opération de maintenance sur le télescope spatial Hubble, donc à 590 km de la Terre à peu près, était détruite à son tour par les débris spatiaux et seuls deux astronautes, Sandra Bullock et George Clooney, parvenaient à se réfugier dans un Soyouz déjà.
Alors donc oui, effectivement, c'est un scénario catastrophe, c'est un scénario qui est connu des scientifiques, hein, une espèce de réaction en chaîne qui s'appelle le syndrome de Kessler, du nom du scientifique qui l'a imaginé. C'est-à-dire qu'on a un débris une explosion qui fabrique des débris qui vont ensuite percuter un autre objet dans l'espace qui, à son tour, va fabriquer des débris, etc., etc., etc. Parce que dans le film, si vous vous souvenez bien, la Station Spatiale Internationale, il me semble, est aussi détruite. Et effectivement, l'astronaute qui reste, qui est Sandra Bullock, navigue de lieu en lieu dans l'espace pour réussir à pouvoir rentrer sur Terre. Elle finit d'ailleurs sur une station chinoise et récupérer un vaisseau chinois, pour une capsule chinoise, pour pouvoir rentrer sur Terre.
Alors, il faut savoir en effet que les débris sont très dangereux, et notamment les débris de moins de 10 cm.
Alors en fait, tous les débris sont dangereux. Les débris de 10 cm forcément sont très dangereux, parce qu'ils sont gros. Mais simplement, on arrive à les voir, on arrive à les suivre par radar.
Donc on peut prévenir qu'ils vont arriver.
Voilà, comme on les suit, on connaît au bout de 2 ou 3 jours, on connaît leur trajectoire et on sait ce qui va se passer. Donc si jamais leur trajectoire intersecte, comme on dit dans le jargon, la trajectoire de l'ISS ou de la station spatiale chinoise, on prévient la station qui peut faire ce qu'on appelle une manœuvre d'évitement, c'est-à-dire elle actionne des petits moteurs, elle monte en orbite et donc le débris passe à côté. Ça, c'est très bien pour les débris de plus de 10 cm. Les débris qui font entre 1 et 10 cm, l'ennui, c'est que pour la plupart, on ne les voit pas. Donc, on ne sait pas où ils sont, on a une idée de leur nombre, mais on ne sait pas où ils sont. Donc, le danger est là. Pour les débris qui sont plus petits, c'est-à-dire moins d'un centimètre, le blindage de la Station Spatiale Internationale est suffisant pour les arrêter.
Mais bon, il n'y a pas que la Station Spatiale Internationale là-haut. On fait une pause, Pierre Barthélémy. On y revient juste après. Il y a encore beaucoup de choses à raconter sur cette affaire.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï. 9h, 10h. C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec Pierre Barthélémy, le journaliste scientifique du quotidien Le Monde. Je le disais juste avant la pause, il n'y a pas que la Station Spatiale Internationale qui est là-haut, ni la Station Spatiale Chinoise. Il y a également des satellites météo, des satellites de communication, des satellites militaires, des satellites espions, eux aussi pour être touchés.
Tout à fait, voilà. Tous les satellites, la Station Spatiale Internationale, finalement, c'est un satellite parmi d'autres, même s'il est beaucoup plus gros que les autres. Tous les satellites sont menacés, sur essentiellement ceux qui sont dans les orbites dites basses. Là, les débris qui ont été générés par l'explosion russe peuvent monter jusqu'à 800, peut-être 1000 kilomètres.
Il y en a combien d'ailleurs, pardon de vous interrompre?
Alors, on a annoncé qu'il y avait environ 1500 débris de plus de 10 cm.
1500 quand même. Hein.
Oui, de plus de 10 cm. Et il faut savoir que les ordres de grandeur augmentent à chaque fois que le diamètre diminue. Donc on peut estimer que de 1 cm, les débris sont de l'ordre de 15 000.
Et
de...
Les plus dangereux donc.
Ouais, c'est ça. Et de l'ordre du millimètre, c'est probablement des centaines de milliers de débris qui sont à nouveau dans l'espace. Avec cette explosion.
D'ailleurs, un de nos satellites militaires, à nous les Français, baptisé Cerise, avait été détruit il y a 25 ans par un débris d'une fusée Ariane.
Voilà, c'est l'exemple qui est très connu en France. Cerise était un petit satellite militaire avec une espèce de bras télescopique, de mât, on va dire, qui lui servait à contrôler son attitude dans l'espace. Et ce mât a été sectionné par un petit débris qui provenait d'une fusée Ariane qui avait été tirée 10 ans plus tôt. Voilà, donc on se rend bien compte que il y a certains débris qui peuvent rester pendant des années, voire des siècles s'ils sont très hauts, voire encore plus longtemps s'ils sont sur, par exemple, sur une orbite géostationnaire, d'où on ne peut pas descendre, pour ainsi dire. Donc, ils sont là pour l'éternité. Et donc, il faut bien voir que ce problème est un problème réel. L'espace, finalement, c'est comme la Terre, comme quand on parle d'environnement, il ne faut pas le polluer.
La France a envoyé mardi dernier, le missile russe avait été tiré la veille, une constellation de 3 satellites espions destinés à doter notre pays d'une capacité d'espionnage unique en Europe. Et certains se disent, est-ce qu'il y a un rapport ?
Très honnêtement, je ne pense pas. Franchement, je pense que c'est plutôt de l'ordre de l'incoïncidence. Cela dit, bon voilà, moi je ne suis pas dans la tête des gens du Kremlin, ni dans celle de Vladimir Poutine. Donc c'est très difficile de dire pourquoi ce tir a été effectué à ce moment-là. Effectivement, il y a aussi tout un tas de tensions géostratégiques, notamment dans l'Est de l'Europe, en Biélorussie, en Ukraine, qui pourraient expliquer l'intention du Kremlin de montrer les gros biceps.
Est-ce que la station spatiale a déjà subi des dégâts provoqués par des débris, puisqu'il y en a tant ?
Alors oui, c'est déjà arrivé. Alors il n'y a jamais rien eu de grave, heureusement. Je me souviens qu'il y a quelque temps, on a eu un petit trou sur un bras robotisé installé par le Canada sur la Station Spatiale Internationale. Et effectivement, de manière récurrente, sur les panneaux, il y a des petits... c'est le grand panneau solaire qui équipe la Station Spatiale Internationale et qui occupe évidemment beaucoup de surface. On a des petits pets, comme on dit, mais qui sont à la fois dus aux micrométéorites et aux tout petits déchets qui naviguent dans l'espace.
Pierre Barthélémy, l'espace accueille déjà des milliers de satellites, pour Internet en particulier. On en attend 50 000 nouveaux d'ici 2030. À moins de 2000 km, on peut s'attendre à des collisions, à de la pollution, vous l'avez dit, à des débris. Comment est-ce qu'on va nettoyer tout ça ? Est-ce que ça n'est pas préoccupant ?
Alors, effectivement, c'est préoccupant. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, notamment à l'Agence spatiale européenne, de savoir qu'est-ce qu'on fait pour tous ces satellites que, effectivement, par exemple, SpaceX veut lancer 42 000 satellites. Les constellations Internet, ce seront effectivement, comme vous le disiez, des milliers et des milliers de satellites nouveaux dans les prochaines années. Il y a ces règles de bonne conduite qu'on a évoquées rapidement tout à l'heure. Elles disent quoi ? Elles disent que, finalement, celui qui lance doit prévoir la mise hors service de son satellite. C'est-à-dire
pas en lui tirant dessus,
c'est-à-dire que quand le satellite approche de sa fin de vie, on active un programme de désorbitage, c'est-à-dire qu'on va pousser le satellite à redescendre et aller se consumer dans l'atmosphère.
Il ne pourra pas retomber sur la Terre.
En fait, tout ça brûle quand ça rentre dans l'atmosphère, oui. Parce que la vitesse est telle et les frottements avec l'atmosphère sont tels que tout ça se consume.
Il n'y a pas de risque.
C'est rarissime qu'il y ait des morceaux qui tombent, qui arrivent jusqu'au sol. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas très dangereux. Encore faut-il que les satellites répondent aux ordres qu'on leur donne, parce qu'il arrive aussi que certains satellites soient complètement HS, hors d'usage, et on ne peut plus communiquer avec. Et dans ces cas-là, effectivement, on ne peut plus leur ordonner de se désorbiter et d'aller se...
Et ils tournent tous dans le même sens, là-haut ?
Alors oui, ils tournent plus ou moins dans le même sens, simplement ils ne sont pas tous selon le même angle. Si c'était simplement un train de satellites unique qui était à la queue leu-leu, ça ne serait pas très grave. Mais en fait, ils ont tous des angles différents, donc leurs trajectoires finissent toujours par se recouper.
On se remet à parler de l'espace depuis quelques années. Est-ce que ça veut dire que l'espace est en train de devenir une zone de conflit ?
L'espace est sans doute en train de devenir une zone de conflit. D'ailleurs, les États-Unis et même la France ne s'y trompent pas, puisqu'on a créé des commandements militaires spatiaux. Donc, on sait très bien que c'est un enjeu stratégique important. Il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que l'espace est de plus en plus présent dans nos vies, ne serait-ce que parce que, par exemple, on a tous un téléphone dans la poche avec un GPS dedans. Et tout ça, ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas des satellites de positionnement au-dessus de nos têtes. Donc voilà, et il y a aussi les satellites de communication qui sont utilisés tous les jours. Je ne parle même pas de la météorologie, etc. Et il y a aussi toutes ces nouvelles constellations Internet qui sont destinées à donner à un certain nombre de pays une connexion Internet très haut débit, pour des zones qui ne sont pas connectées par de voies classiques.
Merci Pierre Barthélémy. Je renvoie à votre chronique dans Le Monde. On fait une pause et on se retrouve avec Caroline de Gruyter.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Caroline de Gruyter.
Bonjour.
Vous êtes correspondante et éditorialiste pour les affaires européennes de NRC. Alors, je ne sais pas très bien comment on le prononce, qui est un grand journal hollandais. Vous êtes basée à Bruxelles et c'est dans De Standaard, le quotidien belge, que vous avez publié une chronique traduite dans le dernier numéro de Courrier International sous le titre « Les grandes idées sont françaises ». La France, dites-vous, se distingue en Europe par sa propension à formuler de grandes orientations. Et cela depuis le début, hein, la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était Jean Monnet et Robert Schuman. Le marché unique, c'était Jacques Delors. La monnaie unique, c'était François Mitterrand. Helmut Kohl, lui, n'en voulait pas. Et aujourd'hui, l'autonomie stratégique, c'est Emmanuel Macron.
Tout à fait, oui.
Enfin, vous dites que ça fait partie de l'équilibre franco-allemand.
Oui, parce que je pense, on généralise toujours un tout petit peu, hein, mais les Allemands en Europe, ils se font toujours un peu plus petits qu'ils sont. Pour des raisons historiques, hein, bien sûr. C'est peut-être une question de mentalité aussi, mais souvent, s'ils ont des idées, ils les cachent un peu, hein, pour ne pas donner aux autres pays l'impression qu'ils veulent redominer le continent, d'une sorte ou l'autre. Pour les Français, c'est un peu l'inverse, je dirais. Ils se font un peu plus grands qu'ils sont en réalité. Les deux sont des grands pays, et des pays clés, hein, de l'intégration européenne se déroule autour de ces deux pays, hein, qui se sont battus plusieurs fois et ont écrasé le reste du continent dans le procès. L'Europe s'est fait pour encadrer un tout petit peu les deux, mais ils sont très différents et on peut aussi dire qu'ils sont un peu complémentaires.
Vous dites également, Caroline de Gruyter, dans cet article, que l'Allemagne aspire toujours à devenir un peu plus européenne, tandis que la France, oui, s'efforce de rendre l'Europe un peu plus française.
Oui, on va avoir bientôt la présidence française de l'Union européenne. Cette fois, on a eu une annonce que des réunions pendant ces 6 mois seront tous en français. Et peut-être on a mal compris, sans doute. Et c'est pas faisable non plus, c'est pas possible. Mais ces genres d'annonces, on n'entend jamais venir de Berlin, quoi.
Mais parce que l'Allemagne agit discrètement et la France non.
Parce que l'Allemagne a une seule mission en Europe et c'est de ne jamais plus dominer l'Europe. Hein. Tout rentre à la dernière guerre. Pour les Français, c'est un peu différent, je dirais, parce que la France, elle a une mission, et pas nécessairement européenne même, mais une mission quand même un peu universaliste, parce que tout vient, je pense, de la Révolution française. Les valeurs de la France, de la Révolution, sont pas seulement applicables en France, mais aussi en Europe et dans le reste du monde.
Oui, au fond, vous citez Zbigniew Brzezinski, hein, qui était le conseiller du président Jimmy Carter, et qui avait dit qu'avec la construction européenne, la France cherchait la réincarnation et l'Allemagne la rédemption. En fait, la France, oui, veut renouer avec sa grandeur passée et l'Allemagne veut faire oublier son passé.
Oui, c'est exactement ça, oui. Et ils se trouvent au milieu, les deux pays. Hein.
Mais comment les autres pays, le vôtre par exemple, les Pays-Bas, comment les autres pays voient-ils tout ça?
Les petits pays sont toujours un peu jaloux, hein, des grands. Et avec une bonne raison, n'est-ce pas? Et ils utilisent l'Europe, l'Union européenne, pour se fortifier un tout petit peu contre les grands pays. Et c'est presque une réflexe, hein, quand en Irlandais loupe une nomination, une bonne nomination européenne pour un top job, on accuse souvent implicitement la France. Hein. Oui, c'est un peu idiot. Mais en même temps, après le Brexit, ça change un tout petit peu. Ce qui est intéressant quand même, parce que maintenant, ils ont compris qu'ils doivent travailler mieux avec les Français.
Vous dites vous-même, hein, dans cet article que l'Allemagne et les autres pays de l'Union européenne ont tendance un peu à détourner les yeux quand la France lance une nouvelle grande idée. Ils rient sous cap, on a,
oui,
l'impression.
Oui, c'est vrai.
Et pourtant, nos grandes idées, on l'ont souvent emporté quand même.
Oui, exactement. C'est peut-être cette mission française. Les Français, ils ont vraiment des idées pour l'Europe. Ils les ont toujours eues aussi. Hein. Et c'est pas nécessairement l'Europe que les autres veulent avoir. Mais souvent, quand je me rappelle la présidence de François Hollande, pendant la crise de l'euro, il avait des problèmes antérieurs. Il y avait beaucoup de soul-searching en France, donc les grandes idées ne sont plus venues à Bruxelles. Et là, tout le monde demande, parce que si la France ne les lance pas, personne ne les lance.
Au fond, les Français voient les problèmes arriver de loin, alors que les Allemands passent à l'action sur la scène européenne seulement quand il le faut. Et si Macron a parlé le premier de mort cérébrale de l'OTAN et y a répondu par l'Europe qui protège, si aujourd'hui propose un consensus de Paris pour succéder au consensus de Washington, au fond, c'est notre manière à nous de faire l'Europe.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et aussi, bien sûr, le reste de l'Europe a compris que ça fonctionne comme ça en France. Hein. Donc, on anticipe aussi et on résiste et on, pour contrer un peu, pour diluer encore. Mais souvent, il est vrai, regardons encore la crise de l'euro, l'Allemagne et les Pays-Bas et l'Autriche et quelques autres ont beaucoup...
Tergiversé.
Et oui, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Mais à la fin, on a tout fait. On a un fonds pour des pays en problème que les Allemands ne voulaient pas, que la France avait proposé. Il y a la supervision des banques, etc. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et quand ça arrive, c'est beaucoup dilué. Mais c'est ça l'Europe, hein. Il y a toujours des compromis.
Merci Caroline de Gruyter. Ce que vous nous racontez est plutôt encourageant. Je renvoie à la traduction de votre article. Les grandes idées sont françaises. C'est dans le dernier numéro de Courrier International.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine et terminé. Pierre de Villeneuve vient d'entrer dans
Bonjour
ce studio.
Frédéric.
Nous, on se retrouve demain matin à 9h. Mais dans quelques instants, ce seront les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Pierre ?
Avec le Covid qui devient l'acteur principal de la présidentielle, avec la droite requinquée, avec le débat des Républicains, mais aussi le nouvel homme fort de l'Association des maires de France, David Lisnard. Et nous terminerons par le coup de Trafalgar en Manche et mer du Nord pour les pêcheurs français.
Comme tout cela est bien dit, bonne émission.